on va aller dans le chapitre 2 du livre de Job et on va lire tout le chapitre. Donc, les 13 versets. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs! » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nahama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « L'épreuve de la maladie est réclamée par Satan ». Alors, on a vu dans la leçon précédente que Satan s'était encore présenté. Dieu avait dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est un homme intègre et droit, craignant l'Éternel, et il s'éloigne du mal. » Et malgré cela, le Seigneur lui a donné la permission, non seulement de lui enlever tous ses biens, mais de perdre ses enfants d'une façon extrêmement douloureuse. Et on a vu que, comme si on comparera ça à un combat de boxe, la première ronde, Job a été vainqueur. Il n'a pas dit de choses inconvenantes sur Dieu et il n'a pas questionné ses voies. Maintenant, c'est sûr que le malin, il a de la suite des idées et il veut démontrer son point de vue comme de quoi que l'homme ne peut aimer Dieu que parce qu'il est intéressé. Autrement dit, on aime Dieu parce qu'il nous bénit, qu'il nous amène des choses, il nous donne des choses, mais lui voulait démontrer que l'homme, s'il n'a pas de bénédiction et s'il est réduit à un état, si Dieu l'éprouve vraiment, il y est sûr que l'homme Job va condamner Dieu, va maudire Dieu. Alors, on voit que l'Éternel, c'est quand même important qu'on lise ces chapitres-là, puis qu'on les médite, parce qu'on apprend quelque chose que Satan a accès au ciel et qu'il demande. Alors, quand Jésus est venu, il a dit à Pierre, Satan a demandé pour te cribler comme du froment. Alors, s'il l'a fait pour Pierre, s'il l'a fait pour Job, on peut déduire qu'il continue à le faire pour les saints. Alors, s'il arrive des épreuves dans nos vies, là où le livre de Job nous enseigne quelque chose, c'est que ce n'est pas toujours parce que c'est le résultat du péché. Parfois, oui, mais pas toujours. Alors, c'est ça qu'on va apprendre. Il peut y avoir différentes raisons. Ici, on apprend parce que Dieu nous fait rentrer dans les coulisses, nous fait voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a permis ça. Et il nous le montre. Alors, déjà, dès le départ, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est parce que Satan a demandé des choses dans le but de prouver son point. Mais on va voir que, encore dans le deuxième round, il va encore gagner. Alors, l'épreuve de la maladie est réclamée par Satan. On va voir que l'épreuve dans sa préparation, les versets 1 à 6, l'épreuve dans sa présentation, versets 7 à 10, puis l'épreuve dans sa préoccupation, versets 11 à 13. Alors, on avait vu dans la première leçon que l'adversaire avait subi un échec lors de sa première tentative de prouver que Dieu, que Job servait Dieu par intérêt seulement. Je ne sais pas si lequel d'entre nous résisterait à une pareille épreuve. Tu perds tous tes biens, tu perds tous tes enfants, dans la même journée. Il suffit de s'arrêter pour y penser, pour voir comment ça nous affecterait. Et là, il a bien réagi. Donc, Dieu lui avait donné à Satan la permission de lui enlever tous ses biens et toute sa famille. Donc, ses 10 enfants, d'un coup sec, tous. Mais Job était suffisamment proche de Dieu, suffisamment fort, pour ne rien, ne pas dire de mal de l'Éternel après sa première. Donc, Satan avait détruit de façon malicieuse et méchante. Regardez bien, on va nommer l'ensemble des choses qui avaient été détruites. 500 paires de bœufs, 500 ânesses, 7000 brebis, 3000 chameaux, un très grand nombre de serviteurs et la vie de ses 10 enfants. Dans une seule journée. À quelque part, c'était une épreuve difficile. Donc, Job avait gagné le premier round. Après cette très dure épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré. Il a reconnu la souveraineté de Dieu sur l'attribution ou l'enlèvement des biens. Il a béni le nom de l'Éternel. Il n'a pas péché et il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Alors, on voit que quand Dieu dit qu'il était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du péché, il fallait qu'un homme soit fort spirituellement là, pour résister à la première. Mais, comme on le sait, l'ennemi de nos âmes ne lâche pas prise facilement. Le voilà à l'œuvre de nouveau. Alors, son orgueil, son assiduité au mal et son obstination aveugle l'amènent à concevoir une épreuve plus sévère pour prouver que Job n'aime pas Dieu de façon désintéressée. Alors, on va regarder dans le premier point l'épreuve, sa préparation. Dans le verset 1 à 6, on voit dans le verset 1 la préparation. Dieu nous montre comment tout ça est arrivé, comment tout cela a pris forme. Ça dit dans Job 2, verset 1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Alors, on le sait, la providence de Dieu, elle s'exerce de façon continuelle et elle s'étend sur toutes les époques et sur tous les événements. Le texte ne nous mentionne pas combien de temps s'est écoulé depuis la première épreuve de Job et pour passer à la deuxième. Ne nous dit pas le temps. Alors, Satan ne s'avoue pas vaincu. Comme Saül, avant sa conversion, quand on lit dans Acte 9, on parle de Saül, et ça dit, Saül, c'est-à-dire respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alors, quand quelqu'un est sous l'emprise du malin, il est encore, il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples, et il voulait continuer encore. Désirait encore plus de pouvoir pour répandre encore davantage de sang. Alors ici, on a la même, comme on peut dire, tel père, tel fils. Alors, Satan ici s'acharne contre Job pour prouver malicieusement ses affirmations blasphématoires. Quand on regarde dans le verset 2 et 3, là, on voit que la préparation du drame est contestée par Dieu lui-même. Parce qu'il nous dit dans le verset 2 et 3, « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? » Et l'Éternel répondit, et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Pensez-vous que Satan ne l'avait pas remarqué, que Job était intègre et droit, craignant le mal, et il ne parle pas de sa défaite première, de son knock-out, autrement dit, de sa première épreuve. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et là, ici, ce qui est remarquable, c'est que Dieu répète ce qui avait été dit dans le chapitre 1. Combien de fois que ça a été dit dans le chapitre 1, puis dans le chapitre 2, intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal? Trois fois. Le texte le dit, après ça, Dieu lui-même le réaffirme. Et ici, à la deuxième, à la préparation de la deuxième épreuve, Dieu le dit encore. Il dit, il n'y a personne sur la terre. Imaginez-vous, se faire dire par Dieu, t'es tout seul, t'es vraiment exceptionnel, il n'y a personne sur la terre comme lui. Est-ce que Dieu pourrait dire ça d'un d'entre nous? Il n'y a personne sur la terre comme... Mettons nos noms en arrière. Parce qu'il dit, cet homme, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et le Seigneur ici vient dire, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Lors de sa première venue, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a informé que Satan réclamait des disciples pour les cribler comme le froment. On lit ça dans Luc 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi, je pense que le verset à la fois de Job et de Luc nous montre que, oui, fort probablement que Satan a accès au ciel et demande que nous, tu vois ton serviteur un tel, livre-moi-le pour telle chose et tu vas voir qu'il va t'abandonner. Alors, on constate ici que le malin est assidu au mal. Il cherche par tous les moyens à dérober Job de son intégrité, de sa droiture, de sa crainte de Dieu et de sa haine du mal. Pour le croyant, deux choses se doivent d'être conservées à tout prix. La justice de Christ qui nous est imputée et une bonne conscience. Alors, quand quelqu'un vit une épreuve, il faut se souvenir que Dieu ne nous déclare pas juste sur la base de nos propres justices, mais il nous déclare juste sur la base de la justice de Christ qui nous est imputée. Autrement dit, qui est mise sur notre compte à cause de Christ et de l'œuvre qu'il a faite sur la terre. Donc, Dieu est un observateur très attentif de notre comportement dans les épreuves et il est rempli de compassion envers nos souffrances. Il complimente notre conduite dans les épreuves lorsque nous les traversons en lui faisant pleinement confiance et en conservant la foi en son amour et en sa bonté. L'Éternel réitère fortement son appréciation du caractère de Job et questionne les motifs de Satan. Pour l'adversaire, une piété gratuite est impensable. En revanche, une méchanceté non motivée le caractérise lui-même. Il fomente le mal pour rien parce que telle est sa nature. Dieu retourne le terme contre lui. C'est comme s'il lui disait, « Tu prétends que Job ne me sert pas pour rien, mais toi, tu veux le perdre pour rien. » C'est ça qu'il leur dit dans le verset 2 quand il nous dit, « Et toi, tu m'excites à le perdre sans motif. » Autrement dit, il retourne le compliment de guillemets à Satan, voulant dire, « Toi, il n'y a aucune raison pour laquelle tu me demandes d'aller encore plus loin dans l'épreuve. » Alors, la réponse du diable est insolente. « Peau pour peau » qui répond. Aux yeux de Satan, un homme est prêt à donner tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Le diable est imperméable à toute notion de générosité vraie. Son pessimisme cynique devra donc être combattu et démontré comme faux par Job. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, quand il y a eu des êtres humains, des croyants qui ont été placés face au choix, soit de maudire Dieu, toute l'histoire de l'Église est remplie de ça. Les martyrs des premiers siècles, quand il y a eu l'époque de la Réforme, il y a eu des chrétiens, il y a eu l'époque... l'Inquisition, où l'Église catholique prenait des croyants, ils les emmenaient dans des salles de torture, ils leur faisaient subir toutes sortes sortes de souffrances extraordinaires dans le but de les faire abandonner leur foi. Et quand l'homme est placé devant le fait où on te tue, où tu dénonces ta foi. S'il rentrerait des soldats dans la salle ici ce matin, puis il dirait « Ceux qui renoncent à leur Dieu publiquement, vous pouvez sortir. Les autres, on vous met un fusil sur le bord de la tempe et on vous fait sauter la cervelle. Combien d'entre nous sortiraient? » Alors quand ici on dit que l'homme, peau pour peau, Satan, il y a un argument fort. Là. Quand il est question de sa vie, l'homme est prêt à faire n'importe quoi. Et au cours de l'histoire de l'Église, l'histoire des martyrs, l'histoire de la Réforme, l'histoire de l'Inquisition, il y en a eu des gens qui ont tombé. Il y en a eu des gens qui ont renoncé à leur foi par écrit. Je me souviens d'un en particulier qui avait signé une... Je me souviens plus comment... En anglais, appelle ça recantation. Il avait signé un document comme de quoi il renonçait à sa foi. Ils l'ont remis en prison. Et dans, il a eu la nuit pour réfléchir. Le lendemain, il a dit à ses bourreaux, « Je regrette, je ne reconsidère pas ce que j'ai fait hier. C'est un moment de faiblesse. » Et quand ils ont dit, « OK, ben, c'est comme ça, on va t'emmener au bûcher. » Il l'a emmené au bûcher, il a dit, « La première chose que je veux qu'on brûle, c'est la main avec laquelle j'ai signé ma récantation. » Je ne sais pas si c'est un bon mot, récantation. Mais c'était pour montrer que quand l'homme est placé devant des circonstances extrêmes comme ça, Satan dit, « Faites-en pas, les hommes sont prêts à donner n'importe quoi juste pour sauver le pot. » Alors, il avait raison jusqu'à un certain point, mais pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de martyrs au cours de toute l'histoire de l'Église qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour ne pas renoncer à Christ. Et bien entendu, on se pose la question, comment une personne peut être aussi forte pour agir comme ça devant une chose comme ça? Bien sûr, je pense qu'il y a la question de notre proximité au Seigneur. Plus on est proche du Seigneur, plus on a de chances d'être plus fort. Et autre chose, la personne qui se voit placée dans des circonstances comme ça, je pense qu'elle ne peut pas avoir d'autre réflexe que celui de demander au Seigneur, « Tu sais que je ne suis pas frémé, je ne suis pas construit pour vivre une pareille expérience. Donne-moi la grâce. » Et moi, je suis convaincu que tous ceux qui ont traversé des épreuves pareilles, puis quand on lit, si jamais vous voulez avoir... J'ai un livre à la maison où on nous montre des images. C'est pas des photos, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais c'était comme des illustrations au fusain, si vous voulez, là, où on nous montre scène par scène, puis méthode par méthode, ce qu'on faisait subir aux gens pour qu'ils renoncent à leur foi. Et je vous dis, c'est à peine si on est capable de regarder 50, 60 pères, on vient. Ah! Ils nous racontent tout ça, c'était incroyable, incroyable. Alors, c'est vrai que l'instinct de conservation de notre vie, c'est puissant chez l'homme. Cependant, pour le croyant, cet instinct doit être subordonné au principe de la foi et de la moralité chrétienne. Et on va voir que Job, malgré l'importance et la gravité de son épreuve, il a quand même été gagnant, même à la fin du chapitre 2, ça dit qu'il n'a prononcé rien contre Dieu. On voit qu'il va avoir un petit moment donné, le chapitre 3, ce que je vois, un moment donné, la semaine passée, j'avais utilisé « dérapage », mais je pense que le terme n'est pas bon. Il n'a pas vraiment dérapé. Le terme que Dieu lui a utilisé à la fin du chapitre de Job pour parler de sa façon d'agir, de son serviteur, il dit « Tu as obscurci mes desseins ». Un dessein, c'est un but. Dieu avait un but en faisant ça. Et le questionnement de Job, sa façon de s'adresser à Dieu pour il ne comprenait pas, alors il posait toutes sortes de questions plus ou moins habiles à Dieu, plus ou moins intelligentes. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il lui reproche, il dit « Tu as obscurci mes desseins ». Il n'a pas dit « Tu as complètement dérapé ». Il questionnait Dieu à cause de l'intensité de ses souffrances. Et ça, je pense que c'est humain, puis Dieu ne lui reproche pas ça, de s'être adressé à lui. Ce qu'il lui reproche, c'est d'obscurcir ses desseins. Et on va voir que Job, à la fin, va reconnaître que tout ce que tu envoies, je me suis mêlé de choses trop grandes pour, pour moi. » Et là, il se repentait. Alors, c'est important de comprendre ça. Alors, nous, comme chrétiens, oui, l'instinct de conservation de la vie, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais cependant, quand on est des chrétiens, ça devrait d'être subordonné. Subordonné, ça veut dire en dessous des principes de la foi et de la moralité chrétienne. Autrement dit, la moralité chrétienne, la foi en Christ, ça doit d'être au-dessus de nos vies. Quand le Seigneur dit, il parle de ses disciples, il dit, « Ne reste pas à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même à sa vie. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que je vaux pleinement votre vie. Alors, c'est quelque chose qu'on se doit de retenir. Qu'on se souvienne, quand on a étudié Hébreux, chapitre 11, verset 35, ça nous disait, « D'autres, parlant de chrétiens, furent livrés au tourment. » Et là, on ne reprendra pas tout le chapitre 11. « Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Alors, il y a eu des chrétiens qui n'ont pas renoncé à leur foi, peu importe les menaces, peu importe le type de choses qu'on voulait leur faire ou dont on les menaçait, ils n'ont pas renoncé à leur foi en Jésus-Christ. Puis comme ça le dit, n'acceptèrent point de délivrance. La délivrance, c'est que souvent, ils vont dire, les gens qui sont des ennemis de Christ, ils vont dire, fais ça et tu vas t'en sortir. On va te laisser aller. Mais quand on lit l'histoire de l'Église, on se rend compte que même quand l'Église catholique disait, si tu renonces, on va te laisser partir, il les laissait rarement partir. Il les faisait payer de leur vie quand même. Alors, ça, c'était pas vraiment une délivrance. Quels sont les exemples de la Bible qu'on pourrait utiliser, qui sont mentionnés dans les Écritures, pour nous parler qu'il y a eu des hommes qui ont eu cette trempe-là d'accepter de subir, même de perdre ta vie pour la foi? On a très certainement Daniel. Pas Daniel ici dans la salle, là. L'autre Daniel, Daniel des Écritures, ça ne veut pas dire que Daniel ici ne pourra pas le faire, il pourrait le faire aussi. Alors Daniel, quand il a été placé, dire où tu renonces à prier, parce qu'il y avait un décret du roi, comme de quoi si tu priais, on va te jeter dans la fosse au lion. Imaginez-vous un homme qui se fait dire, si tu continues de prier, c'était des lions qu'on avait privé de nourriture de façon volontaire. Et toi, tu sais très bien que si on te jette vivant dans une fosse aux lions, où il y a 5-6 lions qui n'ont pas mangé depuis 5-6 jours, les chances que tu finisses en lambeaux, dévoré vivant, sont très élevées. Imaginez-vous la foi de Daniel, même s'il me mange vivant, je n'arrêterai jamais de prier, mon Dieu. Le courage. C'est là qu'on voit qu'il y a certains hommes, il y en a eu d'autres, Stéphane. Et il y a eu d'autres. Il y a eu Paul. Paul aussi. Des exemples de ce type de courage. Une multitude de martyrs de toutes les époques de l'histoire de l'Église le prouve également. Si quelqu'un voudrait faire une étude exhaustive, puis aller chercher toutes les faits de l'histoire de l'Église connues, où il y a des gens qui ont accepté de subir des châtiments terribles, d'être torturés, et d'être brûlé vivant et bien d'autres choses qui n'ont jamais renoncé à Christ. Bien entendu, moi, la seule façon que j'explique ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu permet que dans des circonstances pareilles, tu sois fortifié pour être capable de passer à travers. Parce que moi, me dire, attacher des gens comme il faisait dans l'arène, puis il les mettait sur un poteau attaché. Dans l'époque des Romains, et on en faisait des cierges vivants. On les trempait dans, je sais pas trop quoi, là, dans le pitch, je sais pas trop quoi, là. Et toutes les arènes, là, puis il y avait des gens qui assistaient à ça. Imaginez-vous la méchanceté, premièrement, de faire ça, mais pour les Romains qui assistaient à ça comme un spectacle, de voir des gens attachés après un poteau, puis de les regarder brûler vivants, fallait-tu que tu sois assez méchant? Alors, Satan renouvelle son défi avec d'autres présupposés, mais dans les mêmes termes qu'on avait vu, ce qu'il avait dit dans Job 1, verset 11, « Je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voyez-vous son arrogance, même s'il avait été vaincu, de façon, il avait été vraiment, et il dit encore, « Et fais ça, et là, je suis sûr qu'il te maudit en face. » À nouveau, Dieu laisse à l'adversaire le soin de frapper Job, mais cette fois dans son corps. Satan connaît la faiblesse des hommes et leur tendance à blasphémer lorsqu'ils sont dans la souffrance. Si on s'en va dans le dernier livre des Écritures, où Dieu nous dit qu'il a envoyé des épreuves sur la terre, qui comprenaient de la souffrance aux hommes, et ça nous dit, Apocalypse chapitre 16, versets 10 et 11, « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. » Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ça faisait mal. Est-ce que normalement, des hommes qui sont éprouvés au point de se mordre la langue de douleur n'auraient pas dû se retourner vers l'Éternel, implorer miséricorde, se repentir et confesser leurs péchés? Regardez ce que le verset 11 nous dit. « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel » à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alors on voit la dureté du cœur humain, que même lorsqu'il est placé devant une épreuve où il sait la source, il sait que c'est Dieu qui l'envoie, et plutôt que de se repentir, il blasphème ouvertement. C'est comme si tu lèves le poing vers le ciel, puis tu cries contre Dieu ta malice. Alors, la permission est donnée à Satan, mais avec une limite très précise. Il ne peut aucunement attenter à sa vie. Alors, un autre principe qui nous est enseigné ici, c'est que Satan n'a jamais une chaîne plus longue que celle que Dieu lui donne. Alors, la chaîne de Satan est allongée, mais elle n'est aucunement desserrée. OK, tu vas aller jusque-là, mais tu n'iras pas plus loin que ça. Même si Satan avait voulu dire... Je vais désobéir, je vais me rébeller, je vais le tuer. Impossible. Dieu avait dit, tu vas aller jusque-là, tu n'iras pas plus loin que là. Il avait permis qu'il touche à son corps. Alors, les permissions de Satan, en regard de ce qu'il peut faire aux saints, sont toujours limitées par Dieu lui-même. La vie et la mort sont dans les mains de Dieu et non dans celles de Satan. Alors, à partir du verset 7, on voit vraiment la présentation de la maladie comme telle. Et Satan, dès qu'il a eu la permission, qu'est-ce qu'il a fait? Se retirer de devant la face de l'Éternel. Et il n'a pas dû tarder, ça me fait l'impression. Ça dit, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Voyez-vous, même l'ulcère porte son nom, malin. C'était malin, c'était vraiment fait. Fort probablement qu'il lui a infligé la maladie qui était la plus, qu'il connaissait, qui était la plus grave, la plus laide, la plus difficile à supporter. Depuis, ça le dit en plus de ça, là, c'est que c'est taporus le visage. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Autrement dit, tout le corps était affecté, sans aucune exception. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alors, on pense qu'à l'époque, les gens qui étaient soit, qui avaient des maladies graves, qui affectaient leur apparence, souvent, on les excluait socialement. On leur demandait d'aller s'asseoir, souvent dans des endroits vraiment à l'exclusion des autres. Et s'asseoir sur la cendre, c'est fort probablement une image pour nous dire, il allait dans les endroits où on faisait brûler les immondices. Parce que c'était là qu'il se sentait le plus, comme dans le jour, très certainement qu'il devait aller dans des endroits de main pour ne pas être vu. On sait que ceux qui avaient la lèpre à l'époque de Jésus étaient toujours exclus comme ça. Alors, Satan a agi avec rapidité, de façon soudaine, de façon véhémente. Satan frappe Job d'un ulcère malin. Et là, voyez-vous, je vais vous résumer qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que Job, qu'est-ce que le livre de Job nous dit des symptômes de la maladie. Alors, c'est difficile d'établir un diagnostic précis de la maladie à partir des éléments mentionnés dans le livre. Même avec les connaissances de la médecine moderne, l'ensemble de ces symptômes-là ne semble pas correspondre de façon précise à aucune maladie, mais ça peut ressembler à plusieurs maladies. Mais possiblement aussi qu'il y avait à cette époque-là un type de maladie qui n'est pas nécessairement connu de nos jours aussi. Alors, il s'agit très certainement d'une affection cutanée très sévère. C'est-à-dire la peau, Le texte du livre de Job nous fournit une série de caractéristiques de cette maladie. Voyez-vous, là, on va aller chercher dans différentes portions du livre de Job les différentes caractéristiques que sa maladie lui amenait. La première, dans le verset 8, ça nous parle de démangeaison. Ça disait, pris un tesson, c'est un morceau de, comme une cruche cassée, là, pour te gratter tellement ça pique. Alors, des démangeaisons, verset 8. Dans le chapitre 30, au verset 28, ça parle de peau noircie. Alors, non seulement ça démange, mais ta peau est noire. Imaginez-vous, c'est la peau, c'est comme s'il pourrissait debout. Et ça dit aussi que sa peau était crevassée et qu'elle est couverte de croûtes terreuses. Alors, c'est difficile d'imaginer. Chapitre 7, verset 5, on parle de vers. Comment, dans une maladie, pouvait y avoir des vers sur lui-même? Ça doit être affreux à subir une pareille affaire. On parle d'haleine fétide au chapitre 19, verset 17. On parle d'amaigrissement dans le chapitre 16, verset 8 et chapitre 19, verset 20. On parle de fièvre. On sait c'est quoi la fièvre. Quand on a la fièvre, on vient étourdi un peu. Donc, dans le chapitre 30, verset 30, on parle de fièvre. Dans le chapitre 7, verset 4, on parle d'insomnie. Alors, non seulement tu es laid de la tête aux pieds, tu souffres, et tu as toutes ces maladies-là, tu as la peau noire, tu es obligé de te gratter tellement ça pique. Et dans le verset 14 du chapitre 7, on parle de cauchemar. Alors, quand il réussissait à dormir, il faisait des cauchemars. Alors, imaginez-vous le type de maladie qui couvre l'être humain avec une intensité pareille. Ça doit amener l'homme à un état vraiment où il a le goût de se plaindre un peu. Alors, comme je vous ai dit au début, lorsque je vous ai montré les images, certains auteurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de la lèpre. D'autres croient qu'il s'agirait de l'éléphantiasis que je vous ai montré tantôt, les jambes et les pieds devenant énormément enflés, comme je vous ai montré. C'est vrai que ça ressemble à un éléphant parce que ta jambe, elle devient comme un tuyau avec des bosses un peu partout là-dessus. C'est vraiment extrêmement laid. Ou le liontiasis, ça donne à la tête la forme d'un lion à cause de la déformation du visage. Alors, on a vu tantôt les deux images. Ça nous donne une idée que si c'était ça, pourquoi ses amis ne l'ont pas reconnu? Ils ont entendu parler de Job, ils se sont concertés, ils sont allés le rencontrer, mais quand ils l'ont vu, ils ont dû dire, il est là, telle place. Il est allé là, puis, hein? Bien sûr, ils ne le reconnaissaient pas. Alors, l'expression « s'asseoir sur la cendre » indique probablement l'isolation sociale. On pense qu'il s'agit de l'endroit où on brûlait les immondices. C'est une humiliation et une souffrance supplémentaire. Non seulement tu as cette maladie-là, qui est déjà en soi énormément souffrante, mais en plus, on t'exclut socialement. Et on sait qu'à l'époque, les lépreux n'avaient pas aucunement le droit de s'approcher même de ceux qui étaient en santé. Alors, moi, ici, dans le texte, j'avais les images, mais là, je les ai montrées ce matin pour que vous puissiez avoir une idée quand même de qu'est-ce que ça pouvait être comme maladie. Alors, au verset 9, sa femme, bien entendu, le malin, la première fois, il a tué ses enfants, il a tué ses propriétés, ses serviteurs. Pourquoi il a laissé sa femme? Fort probablement que c'était dans le but de l'utiliser pour inciter Job au péché. Alors, sa femme, dans le verset 9, elle dit vraiment une énormité. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Il y en a, certains auteurs, semble-t-il, des commentateurs qui ont dit, ce n'était fort probablement pas une invitation à maudire Dieu directement. C'était plutôt qu'ils disent une façon pour elle de dire, s'il maudit Dieu, Dieu va l'anéantir, il va mourir plus rapidement. Mais ça, c'est pas autorisé nécessairement à croire une pareille chose. Le texte semble clair qu'elle a vraiment dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, elle comprenait pas. Autrement dit, après que Dieu t'a fait mourir tous tes serviteurs, après que Dieu t'a fait mourir tout ton bétail, qui était la richesse de l'époque, le toit d'une maison a tombé sur toute sa famille rassemblée. Tout, il a perdu tout. Et là, elle voit, en plus, il t'envoie cette maladie-là. Elle dit, tu demeures ferme dans l'intégrité. Tu continues de croire que Dieu peut être bon malgré ça. Elle ne comprend pas, là. Elle a dit, tu n'as rien qu'une chose à faire. Maudit Dieu, puis meurt. Alors, est-ce que c'était une incitation au suicide? Possiblement. Parce qu'elle dit, maudit Dieu, et meurt. On sait très bien que la mortalité, qu'on meurt, ça ne repose pas dans nos mains. Si on se suicide, c'est qu'on se donne le droit qu'on n'a pas en réalité. Alors, la femme de Job a été épargnée par Satan, probablement dans le but qu'elle devienne pour lui, pour Satan, un instrument pour mieux le tourmenter. Sa propre épouse le pousse à céder au désarroi et au désespoir. Elle lui suggère 3 tentations, dans le fond. Elle l'incite à l'infidélité, elle l'incite au blasphème, et fort probablement qu'elle l'incite aussi au suicide, parce qu'en lui disant « et meurt », à l'âge qu'elle était rendue, elle devait très certainement savoir qu'il ne suffit pas de désirer mourir pour qu'on meure. En disant ça, c'était une façon pour elle de dire « suicide-toi ». Une chose qui est à remarquer là-dedans, c'est vraiment le rôle que peut jouer nos proches pour des tentations contre Dieu. Où tu es un homme intègre et droit, juste, craignant Dieu, s'éloignant du mal, et Dieu permet que ça soit un membre de ta famille. Ça doit faire encore plus mal quand c'est quelqu'un qui est un païen qui vient t'inciter à faire une pareille chose envers le Seigneur. Ben, tu comprends. Mais quand c'est ta propre épouse qui vient te dire une pareille chose, bien sûr que ça doit être une épreuve assez difficile à supporter. Alors, sa suggestion de la femme de Job démontre qu'elle croyait faussement que la mort met fin à l'épreuve. Et ça, c'est répandu de nos jours. Moi, j'ai connu des gens dans ma jeunesse, je me souviens d'un ami, entre autres, qui restait de la rue suivante de chez nous. Et à un moment donné, ça s'est mis à aller mal dans sa vie. Sa femme l'a quitté, il s'est ramassé seul, et il s'est mis à boire, ce qu'il ne faisait, il buvait pas de façon désordonnée avant, il buvait un peu, mais socialement, là il s'est mis à boire énormément, et il est venu qu'il souffrait tellement, moi je me souviens de l'avoir rencontré une fois au lac Mégantic, et je voyais qu'il filait pas bien, là, qu'il était dans sa période où que tout allait mal. Mais j'étais loin de penser qu'il était rendu, qu'il souffrait à ce point-là. Ben, j'ai su, plus tard, qu'il s'était tiré un coup de 12 dans la tête. Mais quelle est l'idée en arrière de ça? L'idée en arrière de ça, c'est que la mort te fait sortir de ton épreuve. Parce que tu dis, paf, je vais en finir, puis tu penses que c'est fini. Mais en faisant ça, ton épreuve, elle n'est pas terminée. Elle commence, puis celle-là est éternelle. Alors, quelqu'un qui vient se tirer une balle dans la tête, ça, on sait que c'est répandu de nos jours. Il y en a plusieurs qui cherchent à se sortir. Regardez, prenons l'exemple actuellement de l'euthanasie. Les gens qui veulent, et le suicide assisté. Qu'est-ce que c'est si l'idée n'est pas celle-ci? Ah, la mort nous fait sortir de l'épreuve. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que les Écritures nous enseignent. Ça te fait sortir de l'épreuve physique, terrestre, mais ça te fait entrer dans un autre qui est beaucoup plus grave. Mais les gens, quand tu leur dis ça, ah ben je me. Après ça, on m'envoie dans le trou, puis il n'y a plus de trouble. Dans le trou, tu vois qu'il y en a un autre trou que tu ne connais pas, que tu vas connaître. Alors, elle semble ignorer qu'il y a après la vie, après la mort, et que celle-ci. Et qu'il y a une vie après la mort, c'est-à-dire et que celle-ci ne peut se faire que dans 2 endroits précis, le ciel ou l'enfer. C'est ça que les Écritures nous enseignent, pour nous, les êtres humains. Il n'y a que 2 endroits possibles où on va passer notre éternité. Ou avec le Seigneur dans le ciel, ou dans l'enfer pour l'éternité. Alors, quelqu'un qui s'enlève la vie, il est fort probable qu'il n'appartient pas au Seigneur. Et dans le verset 10, on a vraiment la confrontation avec sa propre épouse. Moi, j'ai trouvé que, quand même, Job, malgré tout, n'a pas été trop dur envers sa femme. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Je pense que s'il lui aurait dit, tu es une insensée, et il aurait pu aller plus loin que ça, il dit, tu parles comme une insensée, c'est comme, même, il y a quand même un genre de respect encore qui continue d'avoir envers son épouse, même si celle-ci l'incite à faire des choses qui étaient très graves. Et là, moi, j'aime beaucoup la façon dont il répond. On voit dans le verset 10, il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Il comprend. Dans le fond, c'est un acquiescement à la volonté de Dieu, de dire c'est Dieu qui contrôle nos circonstances. Il nous envoie du bien, mais il peut nous envoyer du mal. C'est son affaire. Il le reconnaît et en tout cela, ça nous dit, Job ne pécha point par ses lèvres. Deuxième ronde, ping, et qui est gagnant? Encore une fois, Satan devait niaiser parce qu'il était sûr qu'il maudirait en face et là, il n'a pas péché par ses lèvres. Alors, Job réprimande fermement son épouse pour sa subjection pécheresse, impie, profane et méchante. C'était une folie de conseiller à son mari de maudire Dieu. Sa faiblesse est manifestée par le fait qu'elle ne reconnaît pas à Dieu le droit d'intervenir et d'éprouver ses serviteurs. C'est comme ça, elle ne lui reconnaît pas ce droit-là. Et lui, il le reconnaît. Nous recevons le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal. Ses pensées indignes démontrent qu'elle était très charnelle dans sa compréhension de Dieu. Job exprime sa soumission par une autre phrase devenue classique, « Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Elle vient renforcer ce qu'il avait dit dans sa première épreuve. Job 1, verset 21-22. Et Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » dans sa première épreuve, victoire finale, dans sa deuxième épreuve, victoire finale encore. Et là, il suffit de s'imaginer si Dieu nous envoyait quelque chose d'aussi sévère. C'est, bien sûr, le Seigneur, dans sa sagesse, n'enverra pas ça à tous ses enfants. Là, il l'a perdu. Pourquoi il a voulu que ça soit conservé dans le livre? Pour qu'on apprenne certains principes, que ce n'est pas parce qu'on a une épreuve, aussi sévère soit-elle, que c'est nécessairement parce qu'on a péché. Bien sûr, ça n'exclut pas la possibilité que Job était un pécheur, comme tous les êtres humains. Mais la marche, la direction de sa vie, le fil conducteur de sa vie, était quelque chose de droiture, d'intégrité, d'obéissance à Dieu et toutes ces choses-là. Et Dieu permet que même si quelqu'un vit ça, de cette façon-là, il est quand même possible que Dieu permette des événements aussi sévères que ça dans nos vies. Dieu veut qu'on le voie, puis il veut qu'on voie aussi la source d'où c'est parti, puis pourquoi il l'accorde. Il l'accorde pour, premièrement, donner une plus grande force morale à son serviteur, et il l'accorde aussi pour sa gloire, pour démontrer à Satan, quelqu'un peut m'aimer même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a pas une scène, même s'il a tout perdu ses enfants, même s'il a tout perdu ses biens, même si je le rends malade à un point que très peu d'êtres humains seraient capables de traverser une pareille épreuve, il continue encore de croire en lui. Job n'a pas péché par ses lèvres, il n'a pas dit, « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je marche droit, je ne pêche pas, je fais ci, je fais ça, puis tu m'envoies une affaire pareille. » Et là, si Satan aurait entendu sortir de la bouche de Job, la malédiction, il aurait dansé de joie, très certainement. Alors, il faisait honneur à Dieu en reconnaissant qu'il est le maître absolu de nos circonstances. Et ici, quand on regarde le verset, le dernier verset 10, ce n'est pas une simple résignation en face de l'inévitable, mais c'est une acceptation positive des dispensations divines. Il baisait non seulement la verge, mais la main qui la tient. J'aime beaucoup cette... C'est poétique, hein? La verge, c'était la maladie, mais il y avait une main qui tenait cette verge-là.
Alors, non seulement il baise la verge, mais il baise également la main de celui qui tient la verge. Il reconnaît que celui qui a permis que cette chose-là arrive, c'est Dieu lui-même. Et en disant cela, c'était vraiment un geste de sa part extrêmement rempli de foi et de courage. Ça nous dit aussi dans Amos, chapitre 3, verset 6b, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Voyez-vous, l'image de la verge, c'est quand Dieu frappe dans nos vies, par un moyen, on peut accepter le moyen, parce que quand il dit ici, c'est plus qu'une simple résignation, on peut se résigner, mais il dit, c'est ici une acceptation positive des dispensations divines, c'est en train de dire que, je reconnais qu'il y a une rod, en anglais, appelle ça une rod, the rod, mais qu'il y a une verge, mais qu'il y a quelqu'un qui la tient. Et je baise à la fois l'un et à la fois l'autre. Ça, moi, j'ai trouvé ça fort. C'est vraiment très fort. La deuxième épreuve, même si elle est beaucoup plus sévère que la première, tourne à la gloire de Dieu comme la première. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres que le texte nous dit. Maintenant, on va regarder l'épreuve, troisième point, sa préoccupation. On voit que, dans le fond, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est dans le malheur qu'on reconnaît nos vrais amis. Quand il nous arrive quelque chose de vraiment important dans nos vies, disons, vous perderiez votre maison, votre auto, vos enfants, vous tombez malade là, au point de vue que personne ne peut vous voir tellement vous faites peur au monde, il n'y aurait qui viendrait vous voir? Toutes vos faux amis, toutes vos fausses connaissances sociales, ils ne voudraient plus vous voir, ils ne voudraient même plus prononcer votre nom en la présence de d'autres personnes de peur d'être associés à eux. Ici, il nous montre qu'il y avait quand même trois personnes, et on parle qu'il se soit, que fort probablement d'après les lieux que les personnes connaissent la géographie de l'époque, on parle d'une centaine de kilomètres là, autour de ces villes-là là, qui étaient de lui. Et pourquoi on se dit comment ça qu'ils connaissaient ces gens-là? Parce qu'à l'époque, c'était il y avait des routes commerciales. Les personnes qui étaient en moyen, les personnes considérables, les personnes un peu comme les riches aujourd'hui. Moi, je ne connais pas les personnes riches de Rouyn-Noranda, mais les personnes riches de Rouyn-Noranda, ils se connaissent entre eux. Un peu comme c'était à cette époque-là également. Alors, ça nous dit trois amis. Et moi, je dirais que oui, c'est un signe de la véritable amitié de quelqu'un quand on est dans l'épreuve importante, que les personnes ne nous lâchent pas, comme on dit. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nahama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Comment ils l'ont appris? Parce que les gens voyageaient à l'époque comme on voyage encore aujourd'hui. On n'est pas nécessairement dans la même ville, mais quelqu'un d'une autre ville peut dire « Ah, il y a eu telle affaire qui est arrivée à telle personne. » Ils se concertèrent. Ça, c'est important aussi. Trois amis, se concerter, ça veut dire qu'on se met d'accord. On va-tu le voir? Ça n'a pas de bon sens. On va aller le voir, pour, ça le dit, la raison, le plaindre et le consoler. Donc, il avait entendu parler fort probablement de la gravité de son épreuve, autant la première que la deuxième. Et ils veulent aller le plaindre et le consoler. L'épreuve de Job avait causé de la tristesse chez ses amis. Ceux-ci l'aimaient assez pour voyager probablement des centaines de kilomètres pour aller plaindre et consoler Job. Ils tenaient à venir lui exprimer toute leur sympathie. Chose qui est intéressante à voir dans ce chapitre-là, c'est la façon dont on témoigne notre sympathie à des gens qui sont dans une profonde souffrance. Je suis en train de lire la biographie de Leonard Ravenhill. Puis à un moment donné, il est allé à Chicago, il était dans un hôtel, puis il y a eu un feu dans son hôtel. C'est un homme de notre époque, il est mort à peu près pas plus que 10 ans, même pas 5 ans, je pense. Il est mort, mais à cette époque-là, il était jeune, il était venu prêcher à Chicago. Il y avait eu une grosse incendie dans l'épreuve, dans l'hôtel dans lequel il demeurait. Il était avec un autre homme qui était plus vieux que lui. Et quand il a entendu le son que le... Il a essayé de sortir par les corridors. Il a voulu aller avertir son ami qui était plus âgé pour l'aider à sortir. Et le temps qu'il a pris pour faire cela, ça a fait en sorte que le feu a eu le temps de se propager encore plus. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sauver? Troisième étage. Il est prêt à peine d'aller chez le vieil ami qui était avec lui. Il l'a emmené dans sa chambre, ils sont sautés du troisième étage en bas. Parce que s'il ne sautait pas, il était brûlé vif. Et pourquoi je vous amène cet exemple-là? Parce que après, bien entendu, il a été brûlé. Même en ouvrant le châssis, apparemment que tout était chaud, il s'est brûlé les mains, il s'est brûlé le corps. Il a eu le temps d'être grillé un peu, comme on pourrait dire. Imaginez-vous la personne qui était avec lui avec quasiment mon âge, 70 ans. Sauter au bas du troisième étage, dans un feu comme ça, sauter en bas. Imaginez-vous, il dit, il y a des personnes qui nous ont vus, sont venues à côté de nous autres, puis plutôt que d'appeler la police, ils étaient là, puis ils se faisaient des remarques entre eux. Ce que Ravenhill raconte, il raconte comment l'être humain peut être bête, des fois. Il voit des gens à terre, puis plutôt que de courir pour aller chercher de l'aide. Hein. Tu sais, c'est comme... Puis après ça... Il se ramasse à l'hôpital et il dit, si vous saviez le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me plaindre et pour me consoler, un peu comme dans l'histoire ici, mais qui me disent des âneries. Il dit, moi là, quand j'entends des personnes me dire des âneries, c'est-tu le temps d'aller dire à quelqu'un, Romains 8, 28, 29, là? Quand quelqu'un vient une affaire comme ça, ben il dit, il y a des gens qui faisaient ça. Il dit, il y a une personne sur tous les visiteurs qui sont venus qui m'a dit une phrase qui m'a un peu réconforté. Il dit, il y en a un qui a dit, le Seigneur est avec toi dans ton épreuve. Ça m'a touché. Le reste, il dit, c'est comme, c'était devenu des visiteurs qui tannaient plus que d'autres choses. Alors, je vous dis ça comme ça parce que je me souviens d'avoir lu dans un autre livre une fois, parce que ça peut nous arriver. Moi, je ne sais pas c'est quoi ma femme meurt. Mais j'ai lu dans un livre, à un moment donné, il y a un pasteur que dans son église, il y a la femme d'un de ses paroissiens qui est mort. Alors, il a tenté, par ses moyens plus ou moins appropriés, à aller consoler la personne. Et il ne l'a pas consolé comme du monde. Et la leçon que lui a appris avec le temps, c'est que quand on ne connaît pas l'intensité de la douleur d'une personne, on est mieux de faire comme les amis de Job. Autrement dit, un bon Québécois, c'est la former. Parce que comment puis-je parler à quelqu'un pour le consoler de ce que c'est perdre un conjoint alors que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Si ça m'aurait déjà arrivé, que j'arrêtais de voir la personne, là, j'aurais probablement pu dire une chose intelligente. Mais je trouve que le texte ici nous montre quelque chose d'important. Les personnes le visitent et les Orientaux, pendant 7 jours, c'était la durée d'un deuil, ils ont demeuré assis à côté de lui et ils n'ont pas dit un seul mot. Parce qu'il voyait bien qu'il n'y a pas grand-chose à dire, là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voyez-vous le verset 12, « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. » Imaginez-vous, c'est des vrais amis qui le voient dans un état pareil, la peau noire, crevassée, des vers, la face, on ne sait pas trop comment elle est arrangée, mais... S'ils le reconnaissent, parce qu'il y a des gens qui disent ça, c'est Job, ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir le cœur touché. C'est un ami. Un vrai ami, là, que tu verrais qu'une chose pareille lui arrive. Qu'est-ce que ça provoquerait chez nous? Ça devrait du moins provoquer, comme ça dit dans le texte, élever la voix, parce que les Orientaux sont très forts là-dessus. Mais c'est correct, ça. Culturellement, pour eux, quand il arrive quelque chose, un peu comme les Italiens, quand il arrive une mortalité, apparemment, ils ont les pleureuses, là. Ils aiment ça que ça fasse ça soit un peu spectaculaire. Mais j'ai rien contre ça. Moi, c'est parce que c'est comme une façon d'exprimer ton intérieur, puis en le vivant un peu extérieurement. Ils ont pleuré, élevé la voix, déchirèrent leur manteau. Ça, le déchiré menton, on vous l'a déjà dit, c'est comme une expression, c'est le survêtement qu'ils avaient par-dessus leur longue robe. C'était une manière d'exprimer le deuil, la douleur, le chagrin.
Et ils se jetèrent de la poussière en l'air. Ça aussi, c'est oriental. Jeter de la poussière en l'air, ça veut dire que nous ne sommes que poussière. Et c'est vraiment une façon de t'humilier, au-dessus de leur tête. Alors, les Saintes Écritures nous enseignent que les véritables amis n'abandonnent pas leur ami, même en temps d'épreuve. C'est le test à l'acide pour éprouver son authenticité. Ça, je dirais que c'est vrai. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Le fait que les amis de Job ne le reconnurent pas démontre que le corps de Job était dans un état méconnaissable. Non seulement ils sont tristes, mais complètement étonnés de l'ampleur de l'épreuve. Ils s'attendaient sans doute à un triste spectacle, mais la réalité dépassait leur appréhension. Leur consternation s'exprime de trois façons: les pleurs, le déchirement de leur manteau et le jet de poussière au-dessus de leur tête. Verset 13, « Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient bien combien sa douleur était grande. » Des malheurs d'une telle ampleur, je pense que la meilleure solution, c'est de s'asseoir à côté de la personne et pas dire un mot, comme le texte nous l'enseigne. 7 jours et 7 nuits étaient la durée d'une veillée funèbre. On voit ça dans Genèse chapitre 50, verset 10. Une présence silencieuse est préférable à des discours maladroits. Job, un peu plus tard, dans le chapitre 13, dans le verset 5, va reprocher à ses trois amis, à ses interlocuteurs, de ne pas avoir persévéré dans l'attitude du silence. Il dit « Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé à avoir de la sagesse. » Autrement dit, si tu te serais fermé, tu aurais passé pour un sage. Alors, c'est important de réaliser cela aussi. Le commentateur Jules-Marcel Nicole rapporte le fait suivant sur le témoignage silencieux de sympathie dans son livre « Le livre de Job », tome 1. Je vais vous citer ce qu'il dit. « Aujourd'hui encore, dans certaines tribus africaines, pour témoigner de la sympathie à quelqu'un qui passe par l'épreuve, des gens viennent, s'essaient en silence, s'assoient en silence dans sa demeure, quelquefois assez longuement, et repartent sans rien dire. Ce geste touchant apporte une consolation réelle à quelqu'un qui souffre. » Alors, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les mœurs d'Afrique, mais fort probablement que l'auteur de ne pas avoir avancé une pareille idée sans que ça soit vérifié dans la culture. Mais voyez-vous, les gens, instinctivement, ils sentent que l'épreuve est assez importante pour l'autre, qu'il n'y a rien à dire. Juste le fait... Voyez-vous, ils sont pas restés debout, ils se sont assis à terre, comme lui. C'était comme un signe, on est avec toi, j'ai pas grand-chose à te dire pour te consoler, malgré que je pense par le fait que je m'assois à côté de toi, tu perçois que j'ai de la sympathie envers ce que tu vis, mais ils ont resté 7 jours et 7 nuits sans rien dire. Et qui a rompu le silence? C'est notre ami Job qu'on voit la semaine prochaine. Les applications du texte d'aujourd'hui. Les serviteurs les plus saints et les plus fidèles de Dieu peuvent être sujets aux plus profondes souffrances. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, ça dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Deuxième application, beaucoup de souffrances des serviteurs de Dieu sont le résultat probable de la malice de Satan. Cependant, on se doit de se souvenir qu'est-ce que les Écritures nous enseignent dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Troisième application, Job est sorti vainqueur de sa deuxième épreuve. Non seulement il s'est soumis aux circonstances envoyées par Dieu, mais il acceptait les dispensations divines dans sa vie. Prions pour que nous ayons une pareille attitude si Dieu nous éprouve. Louons le Seigneur pour son infinie sagesse et son infinie bonté.